Un scandale croquant. Novembre 2012. Si vous me connaissez, il est franchement inconcevable que vous n'ayez jamais entendu parler de cet épisode tragique de ma vie. Le jour où, après m'être perdu en forêt, j'ai été contrainte de déguster la cuisse gauche de mon caméraman Robert. Oui, vous avez bien lu. La cuisse gauche. Pas la droite. Ça, je l'aurais jamais fait. À l'époque, cette histoire avait enflammé les médias et secoué la belle province tout entière. Que ce soit dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, mon nom était placardé partout. Certains esprits tordus avaient même osé créer des mimes grotesques où l'on me voyait caricaturé, rôtissant Robert comme une vulgaire saucisse sur un feu de camp. Je n'écris pas ces lignes pour laver mon honneur, car c'est une tâche que j'ai déjà accomplie avec brio dans mon premier ouvrage, fort bien accueilli, soit dit en passant. Non, cette fois je désire vous transporter au cœur du véritable enfer que j'ai traversé après cet événement. Car survivre à la jungle médiatique se révéla bien plus périlleux que survivre à cette fameuse forêt. Lorsque je fis mon entrée à l'hôpital, un frisson d'émotion et de malaise me traversa de part en part. L'établissement baignait dans une lumière blafarde et impitoyable qui faisait ressortir chaque cerne accumulée pendant ma mésaventure. L'air saturé de désinfectant me raclait les narines et autour de moi des murs beige d'une laideur agressive semblaient avoir été choisis spécifiquement pour anéantir toute forme de joie. Ce n'était certes pas l'accueil triomphal que j'avais secrètement anticipé. Dans mon esprit, l'hôpital allait dépêcher des agents de sécurité pour tenter de contenir les foules d'admirateurs soulagés de me savoir en vie. Peut-être avait-on même prévu une haie d'honneur. Imaginez donc mon horreur, que dis-je, mon incompréhension totale, lorsque l'infirmière chargée de ma perfusion n'eut même pas la décence de me reconnaître. Aucune allusion à mon statut de célébrité, ni à mon rôle pourtant crucial dans la culture québécoise. Pas même un regard ébloui qui aurait évoqué son admiration devant ma nouvelle œuvre, Matantrita, gourou du maquillage, qui avait pourtant accumulé 23 vues sur YouTube. Facile. Je compris alors que la pauvre était probablement trop épuisée pour reconnaître la légende qu'elle avait devant elle. À en juger par ses paupières tombantes et son dos courbé comme celui d'une crevette, elle en était sans doute à son 11e quart de travail consécutif. Animé de ma grande générosité habituelle, je décidai donc d'éclairer un peu son pauvre cervelet engourdi. Fait que c'est toi qui as l'honneur de soigner LA grande Matantrita. Elle me regarda comme si j'étais une vieille folle, échappée d'un centre pour personnes âgées. Avant qu'elle ne puisse articuler quoi que ce soit, une salutation, une révérence ou encore un cri d'admiration, deux hommes en uniforme firent irruption dans la chambre, l'air grave. Agacé par cette intrusion, je me redressai dans mon lit, prêt à leur faire face. Bon, là, vous perdez votre temps, moi j'ai déjà tout raconté hier. Le bois, la maudite roche, les nuits glaciales, je sais plus quoi vous dire. Le plus vieux des deux hommes sortit un petit carnet en cuir, dans un geste lent et presque théâtral. Son regard, vide comme un lundi matin, trahissait un ennui profond face à mes propos. Madame Fettuccini, nous avons de nouvelles informations. Votre caméraman Robert Latendresse est sorti du coma ce matin. Nous allons l'interroger dès qu'il sera en état de parler, mais après examen, les marques sur sa cuisse sont humaines. Je figeai net, un frisson glacial remontant le long de mon échine. Tout ce que j'avais soigneusement brodé autour de cette histoire menaçait de s'écrouler. Robert allait parler et la vérité allait triompher. Je vis défiler devant moi les grands titres, les poursuites et les montages douteux dans des documentaires policiers. Fini la gloire. Adieu les événements tapis rouges, les rabais sur les produits de luxe et les invitations à passer de folles soirées dansantes chez ta mère. J'avoue qu'un bref instant, j'envisageais d'entrer discrètement dans la chambre de Robert et de le faire taire pour toujours. Un petit oreiller sur le visage, rien de plus. Discret, définitif. Mais le destin avait placé un obstacle sur ma route. Un garde moustachu, large comme une armoire à glace, posté devant la porte de chambre de Robert. Il confirmait ce que je redoutais le plus. La police n'enquêtait pas sur une simple affaire de disparition en forêt. Mon attention retourna aux enquêteurs et je balbutiai une défense improvisée. Incroyable! Qui aurait pu faire une telle chose? En tout cas, c'est pas moi, je sais même pas c'est quoi une cuisse. J'obtins mon congé plus tard dans l'après-midi, après avoir passé 3 jours à l'hôpital. On s'assura de me réhydrater adéquatement, puis on me réaligna mes chakras avec un sérieux troublant. On insista même pour que je rencontre un psychologue, mais je déclinai poliment. J'avais trop hâte de mettre toute cette histoire derrière moi. Lorsque je sortis de l'hôpital, un sentiment étrange m'envahit. À en juger par les regards fuyants et les murmures à peine étouffés, je compris que tous me soupçonnaient déjà. À cet instant, j'ai su que tout allait changer pour moi. Le lendemain, la sonnerie du téléphone retentit brusquement, me faisant sursauter alors que je regardais mon émission favorite. C'était le numéro que l'inspecteur m'avait laissé. Devais-je répondre immédiatement? Une réaction trop prompte pourrait paraître suspecte, comme si j'attendais déjà l'appel. J'hésitais, figé, chaque sonnerie résonnant en moi avec la force d'un coup de massue. La gorge nouée, je finis par décrocher. Robert avait tout raconté. Il avait parlé de l'émission que nous étions partis filmer, de l'immense forêt qui nous avait engloutis, mais surtout de l'horrible douleur qu'il avait ressentie en se réveillant avec la cuisse à moitié croquée. Certes, tout s'étant produit pendant son sommeil, il ne possédait aucune preuve irréfutable de ma culpabilité. Mais il affirmait que j'avais, à de multiples reprises, lancé des blagues sur le sujet. Pire encore, il détenait un enregistrement vidéo dans lequel je déclarais très clairement que j'allais devoir le manger pour survivre. On m'y voyait même le pourchasser dans un champ. Je sentis l'étau se resserrer lentement autour de mon magnifique. Oh, mais là, ça c'était juste des blagounes, monsieur l'agent. L'inspecteur ne sembla guère apprécier ma réponse. Il avait mis la main sur la caméra de Robert et visionné de ses propres yeux fatigués les images qui m'incriminaient. Il me donna 2 heures pour me présenter volontairement au poste de police afin d'y subir un nouvel interrogatoire, faute de quoi un mandat d'arrêt serait émis contre moi. En bonne citoyenne exemplaire et célébrité soucieuse de son image publique, je choisis d'attendre. Mieux encore, je pris soin d'alerter plusieurs médias locaux déterminés à offrir une scène poignante, une arrestation digne des plus grands scandales d'Hollywood. Je comptais clamer mon innocence avec panache, les larmes aux yeux et les bras levés vers le ciel. À mon grand désarroi, aucun journaliste ne se présenta sur place. La seule âme à assister à mon arrestation fut le concierge du bloc appartement qui descendait les poubelles en robe de chambre. Je fus escorté jusqu'au poste de police dans un lourd silence. Tentant de détendre l'atmosphère, je demandai si l'on m'autorisait à fumer à l'arrière de la voiture. Ma requête tomba à plat. L'inspecteur, manifestement exaspéré par mon détachement de la situation, ne daigna même pas tourner la tête durant tout le trajet. À notre arrivée, on me plaça dans une petite salle d'interrogatoire. Le décor frôlait la parodie. Une table en métal glacé, 2 chaises à la limite du supplice lombaire et un éclairage qui était digne d'une maison hantée. L'attente s'étira interminablement, à un tel point que je me demandais si l'on cherchait à m'effondrer psychologiquement avant même que la première question ne fût. Dieu merci, un large miroir me permit de raviver mon rouge à lèvres et de contempler malgré tout mon incomparable élégance. 2 heures après mon arrivée, l'interrogatoire débuta enfin. L'inspecteur, installé face à moi, ouvrit un dossier avec une lenteur chirurgicale. Sans lever les yeux, il lança la première question d'une voix tranchante. Qu'est-ce que moi et mon caméraman faisions dans cette forêt ce jour-là? Oh, votre horreur, comme je vous ai dit, on tournait la suite de ma nouvelle web-série à succès. C'était un épisode sur la randonnée pédestre parce que ça m'arrive souvent de marcher avec mes pieds, donc je suis experte en la matière, comprenez? Je savais déjà à quoi l'inspecteur jouait. Il tentait de me faire perdre patience en exigeant que je répète sans cesse les mêmes détails. C'était loin d'être mon premier interrogatoire. Je répondis avec un calme étudié, restant vague et parsemant mes propos de sourires enjôleurs, de quelques blagues bien placées issu de mon répertoire légendaire. Puis, il posa la caméra de Robert sur la table, sans un mot. Mon estomac se noua. Je me doutais bien de ce que cette caméra pouvait contenir. La dernière fois que je l'avais entre les mains, j'étais convaincu que j'allais mourir en forêt et j'avais peut-être laissé quelques phrases compromettantes m'échapper dans le feu de l'action. Les questions devinrent plus incisives et les mots commencèrent à me manquer. Pourquoi avais-je plaisanté au sujet de manger mon caméraman et ce, devant une caméra? N'était-ce pas une étrange coïncidence que les marques sur sa cuisse soient d'origine humaine? Plus je tentais de me justifier, plus je m'enfonçais dans les sables mouvants de la culpabilité. D'ailleurs, je voyais bien qu'aux yeux de l'inspecteur, je n'étais plus une héroïne ayant survécu à une épreuve tragique. J'étais plutôt une menace publique, une cannibale en talons hauts. Bon, Madame Fettuccini, vous n'êtes pas officiellement accusée, mais votre version des faits ne colle pas. Non, elle ne colle vraiment pas. Ce fut à cet instant précis que je compris que mon élégance, aussi ravageuse fut-elle, ne suffirait pas à m'innocenter. Je demandai donc que l'on convoque mon avocat pour la suite de l'interrogatoire. L'inspecteur hocha la tête avec une lenteur exaspérante, comme s'il avait déjà prévu ma rétraction. Quelque chose me disait que lui non plus, ce n'était pas son premier interrogatoire. Il referma le dossier d'un geste calculé et me demanda calmement le numéro de mon représentant légal. Prise de panique, car je n'avais plus d'avocat depuis mon retour d'Italie, je donnai le premier numéro qui me vint à l'esprit, celui de Caroline. Ce fut, et je le dis sans exagération, l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Une plante verte m'aurait probablement représenté avec davantage de professionnalisme. 4 heures plus tard, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement dans un souffle dramatique. Caroline entra, escortée par l'inspecteur. Elle portait sa fidèle jaquette bleue, ne jugeant visiblement pas que l'occasion réclamait un tailleur, ni même autre chose qu'un béret de laine vaguement posé de travers. Bon, là, moi je suis pas ici pour niaiser, Rita est coupable à me le dire hier au téléphone, en plus, Harriet Hulon. Une vraie folle. Je demande 10 ans de prison avec droit de parole dans 9 ans et 364 jours. Je restais estomaqué. Mon esprit essaya désespérément de comprendre ce qui venait de sortir de sa bouche, mais aucun mot ne sembla suffisant pour capturer l'ampleur de sa trahison. Peut-être était-elle encore jalouse de mon nouveau succès sur les internets, même si elle venait tout juste d'en connaître un elle-même quelques mois plus tôt. L'inspecteur se redressa sur son siège, un léger sourire en coin, visiblement amusé par le spectacle qui s'apprêtait à se dérouler sous ses yeux. « Là, Rita, change de face, tu me le dis mot pour mot, j'ai mangé Robert, c'était la seule chose à faire. » Caroline croisa les bras, arborant un air satisfait. Je lançai un regard à l'inspecteur, cherchant un soupçon d'incrédulité sur son visage. Mais il demeura totalement absorbé par sa prise de notes. Ce témoignage spontané de ma cousine enfonçait le dernier clou dans mon cercueil. Ma vie basculerait désormais dans le cirque médiatique le plus grotesque de toute l'histoire. Je mordis ma lèvre inférieure si fort que le goût métallique du sang envahit ma bouche. Je passai l'heure suivante à plaider ma cause devant cet homme impassible. Je m'étais perdu dans une forêt immense. J'étais perdu, terrifié et affamé. Je n'étais pas une criminelle dénuée de raison, j'étais la survivante d'une situation désespérée. Les mots jaillissaient de ma bouche, tandis que Caroline se limait les ongles en hochant la tête, parfois pour marquer son soutien, parfois pour souligner son jugement. Je misais sur l'idée que, dans un moment de pure survie, l'instinct primitif avait pris le dessus. Après m'avoir écouté longuement, l'inspecteur ouvrit enfin la bouche. « Ce n'est pas à moi de décider si vous êtes une mauvaise personne, Madame Fettuccini. » Ce que je sais, c'est que Robert aura lui aussi son mot à dire sur vos aveux. Compte tenu des circonstances, nous n'avons pas d'autre choix que de vous garder ici pour la nuit. J'aurais pu être relâché en attendant la suite des procédures, mais mon refus de me rendre au poste dans les délais imposés joua contre moi. Aux yeux des autorités, il s'agissait là d'un manque flagrant de coopération, révélateur d'un certain mépris envers le processus légal. Un mépris qui, selon eux, augmentait considérablement les chances que je prenne la fuite avant d'être formellement accusé. Une légende comme moi n'avait pas sa place derrière les barreaux, bien que je n'y fusse pas tout à fait étrangère suite à mon passage mouvementé en Italie. Allongé sur mon petit lit, aussi dur que du béton armé, je soupirais en songeant au fait que tout reposait désormais sur ce que Robert raconterait après avoir pris connaissance de mes aveux. Allait-il confirmer que la situation avait été aussi dramatique que je l'avais décrite? Ou allait-il plutôt profiter de l'occasion pour se venger et me livrer en pâture aux journalistes et aux policiers? Avec tous les enfers que je lui avais fait endurer depuis la petite école, je le méritais amplement. Mais, contre toute attente, il décida de ne pas porter plainte. Je l'appris au petit déjeuner dans la cafétéria et mon premier réflexe fut l'incrédulité. Pourquoi épargner la femme qui avait transformé sa cuisse en buffet? J'y vis finalement une forme de reconnaissance, une validation émotive du désespoir qui nous avait habité durant cet incident. Peut-être même un désir sincère de tourner la page rapidement. Je fus libéré de prison, mais cela ne changea rien puisque, dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'acte cannibale se répandit comme une traînée de poudre. Surtout lorsque la vidéo récupérée sur la caméra de Robert fit mystérieusement surface en ligne, après que je l'eus publiée sur ma chaîne YouTube. J'étais libre de toute conséquence judiciaire, certes, mais je ne pouvais plus sortir de chez moi. Dans les journaux, on me surnomma « la femme qui a fait un shish kebab avec son caméraman ». Les damnés chroniqueurs se moquaient de mon récit et m'insultaient à volonté en inventant une panoplie de mensonges sur moi, certains affirmant même que je n'étais pas réellement célèbre. Ma réputation fut, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, réduite en lambeaux. Je regardais impuissante alors que tout ce que j'avais construit s'effondrait. Triste prisonnière de mon appartement, ma paranoïa atteignit des sommets dignes d'un film de suspense. Assise dans mon salon, les rideaux fermés, j'arborais de larges verres fumés afin d'éviter qu'on me reconnaisse. Parfois, je prenais mon courage à deux mains et je soulevais légèrement un coin du rideau pour vérifier si les diaboliques paparazzi m'épiaient toujours. Évidemment, ces vautours médiatiques ne voulaient qu'une chose, me surprendre dans un moment de faiblesse pour transformer ma déchéance en spectacle public. Chaque petit bruit devant ma porte, chaque reflet de lumière derrière les rideaux, était un test. Un test pour savoir si j'allais craquer. Les jours passèrent et je frôlais la folie. Un beau soir, au début du mois de décembre, je basculais. La goutte qui fit déborder le vase fut un paparazzi obstiné qui passait devant chez moi à chaque soir à la même heure dans l'espoir de capturer un cliché qui serait compromettant. Il savait. Il savait ce que j'avais fait et où j'habitais. Il avait tenu plus longtemps que tous ses collègues, devenant le dernier guetteur et le plus affamé. Ce soir-là, je ne supportais plus son intrusion dans ma vie privée. Je sortis de l'appartement sans réfléchir. Complètement nu, mes pieds s'enfonçant dans la neige, je courus. Mon cœur battait à tout rompre et je me mis à hurler. « Vas-tu apprendre ton hostie de photo? Ah ouais, prends-la! » L'homme se mit à courir et une folle poursuite s'engagea dans les rues glaciales de Montréal. Je le poursuivis pendant près d'une demi-heure, nu comme au premier jour, sous les regards consternés des passants. J'étais en pleine euphorie hystérique, galvanisé par l'adrénaline, lorsque je tournai brusquement un coin de rue pour me retrouver nez à nez avec une voiture de police, gyrophare allumé. Les policiers, déjà sortis de leur véhicule, me fixèrent avec une expression d'exaspération, celle qu'on réserve aux cas désespérés, aux anomalies qui transforment une nuit de routine en cauchemar administratif. Je vis dans leurs yeux que tout était déjà su. Quelqu'un avait dû les appeler pour signaler qu'une sexagénaire nue courait après un homme en hurlant des insanités. Sans doute avait-il aussi entendu parler du fameux shish kebab humain, car j'étais devenu le divertissement du quartier. Les murmures des passants, en petits attroupements, confirmèrent ma crainte. J'étais un cirque à moi seul. Un agent de la paix s'approcha et déposa une couverture grise sur mes épaules. Je grelottais de froid et de honte. L'atmosphère devint lourde, figée dans un silence, alors que je pris lentement conscience de ce que je venais de faire. Je montai dans la voiture de police, le regard vide. Avant que la porte ne se referme, Je jetai un dernier regard vers l'homme que j'avais poursuivi. Ce n'était pas un paparazzi. Ce n'était même pas un journaliste. C'était simplement un voisin qui promenait son tickle à chaque soir, à la même heure, en écoutant du Céline Dion sur son lecteur MP3. Assis sur la banquette arrière de la voiture de police, je fixais mon reflet flou dans le rétroviseur. Mon visage, lavé de toute dignité, semblait celui d'une inconnue mal maquillée. Ma chevelure était en bataille et mon rouge à lèvres s'était frayé un chemin jusque sur mes tempes. Les gyrophares projetaient sur mes traits défaits des éclairs rouges et bleus qui me donnaient l'air d'un sapin de Noël dépressif. Ce fut dans ce trajet, en m'étouffé dans une couverture grise qui sentait le polyester mouillé, que la révélation me frappa de plein fouet. J'étais devenu une version tragique de moi-même, une sorte de mythe brisé, alors que 3 mois plus tôt, j'étais pourtant au sommet. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas laisser un accident de cuisse définir ma légende. J'étais Matan Trina, une célébrité intergalactique. Alors que je me noyais dans mes pensées, le policier alluma la radio. Une mélodie familière emplit l'habitacle glacé. Sainte nuit. Les premières notes flottèrent et je laissais la musique me traverser le corps, me traverser l'âme. Je fermai les yeux et j'eus une vision très claire. J'allais enregistrer ma propre reprise de Sainte nuit et en faire un vidéoclip d'une beauté insoutenable. Tout le monde aime Noël. Les chroniqueurs de potins, les juges et même les voisins qui ont des tickles et qui aiment Céline Dion. Je n'avais pas besoin de leur pardon, seulement de leur admiration. Dès ma libération, je me mis donc au travail. Robert accepta de tourner le vidéoclip sous une seule condition, que je ne le morde pas. Dès sa mise en ligne, le clip devint viral. Mon nom était de retour sur toutes les lèvres et j'étais redevenu la Matan Trina que tout le monde aimait. C'est ainsi que, grâce à Noël, au Saint-Esprit et à ma voix mielleuse, je réussis à transformer la plus grande humiliation de ma carrière en un véritable chef-d'œuvre de rédemption. Tout ça parce qu'un policier a eu la brillante idée d'allumer la radio.